Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume Bernard.
Bonjour Yannick.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien du droit, politologue, spécialiste de l'histoire des institutions. Vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Vendée, donc pas très loin de chez nous, Guillaume Bernard. Et je voulais vous avoir pour évoquer ce sujet d'actualité qui est l'euthanasie et la fin de vie. On sait que c'est un sujet toujours très délicat, hein. Tout le monde reconnaît que c'est à manier avec des pincettes, tellement c'est un liquide explosif. Il faut faire attention à tout ce que l'on dit. Il y a cette commission citoyenne qui s'est réunie, qui a demandé le suicide assisté, l'euthanasie, comme si c'était quelque chose de facile. Ma première réflexion, et je voulais avoir votre opinion là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit que depuis que c'est sorti, c'est pas les médias, les intervenants que l'on entend, les spécialistes, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, sont toujours très mesurés, disent « attention, ne nous précipitons pas ». Est-ce que c'est ce que vous observez aussi ?
Oui, il est bien certain que le corps médical est forcément, évidemment, très 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 inquiet, je dirais, de l'évolution de la législation, notamment parce que se pose la question de savoir est-ce qu'on va vraiment leur reconnaître une clause de conscience permettant à ceux qui ne veulent pas participer à l'euthanasie ou au suicide assisté, eh bien de se retirer. Et puis évidemment, les médecins sont plus directement confrontés à la maladie, à la souffrance, au fait de pouvoir calmer la souffrance par un certain nombre de substances. Derrière cela, évidemment, il y a des questions d'ordre métaphysique, moral, qu'il faut, comme vous le disiez, cher Yannick, manipuler avec prudence. Hein. On ne peut pas, évidemment, prendre une position comme ça, tout de go, sans avoir réfléchi, évidemment, aux tenants et aux aboutissants, non seulement individuels, mais aussi collectifs. D'une décision comme celle-là. Donc c'est vrai que on entend peut-être plus des gens qui appartiennent à des lobbies, qui appartiennent à des organisations qui militent pour une position, plus que des personnes qui auraient réfléchi tant d'un point de vue médical que philosophique ou juridique.
Est-ce que la complexité de ce dossier, finalement, c'est que chaque cas que l'on pourrait nous présenter individuellement pour ou contre, eh ben on est amené à faire preuve de compassion et de compréhension vis-à-vis de la personne, un fils qui vous dit « Regardez, ma maman a un cancer en phase terminale, elle souffrait terriblement, elle voulait que ses souffrances soient abrégées. » On reçoit cette information, son fils n'a comme pour seule préoccupation finalement que sa maman arrête de souffrir, c'est terrible, et on se met aussi à sa place. Donc on comprend ça dans un sens, mais on peut aussi le comprendre dans d'autres sens, sur les excès. Et finalement, j'ai presque envie de dire qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord avec soi-même.
Oui, je crois que, évidemment, vous mettez le doigt sur une chose qui est très désagréable dans ce genre de débat, c'est que l'émotion est évidemment instrumentalisée pour aller dans un certain sens. C'est-à-dire que on instrumentalise des cas particuliers, qui ne sont pas négligeables en eux-mêmes, mais qui ne sont que des cas particuliers qui ne peuvent pas justifier une prise de décision pour l'ensemble de la société. Et j'aurais presque envie de vous dire, selon, je dirais, une méthode peut-être un peu jésuitique, que on pourrait effectivement fermer les yeux sur des cas particuliers sans que pour autant on engage la société dans un sens qui est une boîte de Pandore qui pourrait mener à des situations tout de même assez étranges et dont on ne parle quasiment jamais, c'est-à-dire des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes qui, par une forme de nihilisme ou par une forme de désespoir social en raison des conditions dans lesquelles ils vivent ou des idées qu'ils se font de la situation dans laquelle ils sont, eh bien, pourraient demander une euthanasie. Ça n'est évidemment pas la même chose, ça n'a évidemment pas le même sens qu'une personne qui est en fin de vie et qui je dirais, à une maladie qui serait, je dis bien serait, incurable, parce que c'est là aussi où je trouve qu'il y a un non-dit, ou moins deux non-dits dans ce débat. C'est un, on fait preuve d'une certaine manière, je dirais, d'une d'un désespoir scientifique. Tout d'un coup, on ne fait plus confiance à la science pour trouver des remèdes à des maladies. On dit qu'il y a des maladies qui sont incurables. Or, il me semble tout de même que, je dirais, la science fait des progrès qui permettent effectivement de trouver des solutions à certaines maladies. Regardez aujourd'hui, on n'arrive pas à soigner le sida, mais pour autant, il y a des personnes qui vivent avec une très grande espérance de vie
pendant des décennies maintenant.
Pendant des décennies. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est la question de la souffrance. La souffrance, c'est très personnel, c'est très subjectif, et on sait très bien qu'il y a effectivement des substances, la morphine notamment, qui permettent d'apaiser, voire de faire disparaître la souffrance. Donc l'instrumentalisation des cas particuliers, de la souffrance qui est très subjective, et la perte de confiance dans la science me paraissent être, je dirais, les signes, je dirais, de ce que ce débat est en grande partie manipulé par ceux qui veulent à tout prix obtenir, pour des raisons philosophiques, l'euthanasie et le suicide assisté, et qui se servent de cas particuliers pour faire avancer leur cause.
Alors, qui se servent de cas particuliers, c'est-à-dire qui sont émouvants aussi, donc qui mettent toujours en présentation ce dont on partage, et on a beaucoup de respect quand on le présente, la femme qui souffre, une dame âgée, etc. Mais vous, vous allez plus loin dans votre
raisonnement. Et on est tous confrontés, évidemment, dans nos propres familles, soit pour des parents, soit pour nous-mêmes, on est évidemment confrontés à la question de savoir qu'est-ce que je ferais dans une telle situation pour moi-même et pour un de mes proches que j'aime énormément, évidemment. Et ça signifie bien sûr que c'est un vrai débat. Pour le coup, parfois on est parfois confronté à des débats politiques dont on se dit qu'ils sont artificiels. Là, c'est effectivement une vraie question, mais une vraie question civilisationnelle. Que veut-on faire, je dirais, du médecin? Est-ce qu'on veut transformer le médecin qui est normalement là pour soigner et pour guérir et pour prévenir les maladies? Est-ce qu'on veut le transformer en finalement en un bourreau? Je suis au regret de le dire de manière peut-être un peu ferme et un peu provocatrice, mais c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui inquiète les médecins de savoir s'ils ne seraient pas obligés, évidemment, de participer à cela, ou est-ce qu'ils auraient une clause de conscience leur permettant de refuser de le faire.
Alors, je voudrais aller plus loin avec vous, Guillaume Bernard. C'est ce que cela pose aussi la question de notre rapport à la vie, notre rapport à la mort. Parce que finalement, on a bien vu il y a 4 ans, il y a 3 ans, au moment du confinement, du Covid, on nous expliquait, il faut protéger la vie avant tout. Alors, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui disaient, arrêtez avec votre confinement, la vie c'est aussi prendre des risques, ok, c'est pas très gentil ce Covid, ça peut être mortel, mais on va pas paralyser la société doit continuer de vivre, et la vie, c'est pas simplement un cœur qui bat, mais si c'est pour être battu, un cœur qui bat et s'emmerder dans son appartement devant Netflix et en étant confiné, c'est pas la peine de vivre aussi, hein, voilà. La vie c'est prendre des risques, c'est créer, c'est entreprendre, c'est s'amuser, c'est s'occuper de sa famille. On dit non, ce qui compte c'est la vie. Les gens restaient cloîtrés chez eux, et parfois même ils étaient cloîtrés, je les ai vus hein, dans des balcons, des couples, ils étaient avec leur masque, ils étaient seuls dans leur appart pourtant. Et là, tout d'un coup, 3 ans plus tard, c'est l'inverse. Si vous aimez pas la vie, comme un programme télé, ça vous plaît pas, vous zappez avec votre télécommande. Qu'est-ce que cela vous inspire
Écoutez, ça m'inspire une chose, c'est que on est évidemment, vous mettez le doigt sur un paradoxe, mais sur un paradoxe qui est peut-être résorbable par le fait que on a une fâcheuse tendance à réduire la vie à ses aspects matériels. Alors matériel, la bonne santé, matériel, le niveau de vie, on évacue, comme vous le disiez pour la question du confinement, la question des relations sociales, la question de la culture, de l'importance, qui sont extrêmement importantes évidemment dans la vie, dans une existence. Et là, je dirais que on retrouve cette instrumentalisation de l'idée de la dignité de la personne humaine en la réduisant à ses aspects de capacité physique, sans comprendre que une personne, ou en feignant d'ignorer qu'une personne a un rôle social qui est extrêmement important au-delà même de ses capacités physiques. Et on sait très bien que les soins palliatifs ont une très grande importance pour permettre à des personnes de régler un certain nombre d'affaires au sein de leur famille, famille, des questions de succession par exemple, de régler des conflits familiaux, de donner un exemple aux petits enfants, je dirais de ce que représente le courage, de régler pourquoi pas ces affaires avec l'au-delà pour ceux qui y croient. Et donc par conséquent, je crois que là, malheureusement, on est dans une spirale qui nous conduit à réduire la vie à l'aspect mécanique, à l'aspect physique, et finalement à réduire la dignité de la personne à ses capacités matérielles et physiques, sans prendre en considération, aussi bien dans le confinement que dans l'euthanasie, l'aspect culturel de la personne et les enjeux civilisationnels de ces deux questions.
Oui, mais est-ce que c'est pas la vie finalement ? Est-ce que c'est pas le cas ? J'allais dire presque un peu partout. Je vais vous prendre des exemples précis. Dès que vous êtes à la retraite, le gars qui avait son téléphone qui sonnait chaque jour, qui avait un poste important, il s'imaginait avoir plein d'amis, il était invité. Le gars, il est à la retraite, on prend un peu de ses nouvelles, le téléphone sonne de moins en moins, puis au bout de 6 mois, il s'aperçoit qu'il n'est plus invité par personne, et quand il appelait une personnalité, quelqu'un d'important dans son métier, qu'il le prenait immédiatement, là, il y a la secrétaire qui lui dit « rappelez-le, il est très occupé ». C'est le début de la fin. Je vais même aller plus loin en faisant ce parallèle quand, à partir de la cinquantaine, 55, 60, un entrepreneur, par exemple, commence à avoir des problèmes de santé, il croit qu'il a de la bienveillance autour de lui. En réalité, tout le monde autour commence à se poser la question, bon, ça va pas tenir longtemps, il est moins important, donc il va plus être un gros entrepreneur, on va le laisser de côté, ou on pense déjà à qui va racheter
les rapaces.
Oui, voilà, c'est ça, est-ce que c'est pas la vie? Malheureusement, est-ce que c'est pas ça, voilà.
Eh bien, malheureusement, dans notre société, c'est en grande partie devenu cela. Mais on s'aperçoit justement que lors de l'affaire du Covid, on a bien vu que ce qui était le plus fort, ce qui était le plus indispensable, c'était les liens familiaux et les liens amicaux. Peut-être qu'effectivement, des personnes sont évidemment poussées à envisager l'euthanasie et à pourquoi pas même la demander, parce que justement, on exploite leur abnégation, on exploite leur volonté, de ne pas être un poids pour la société, dans le fond, on instrumentalise le fait que l'on a réduit la vie humaine à, la capacité de production marchande, alors qu'il y a bien d'autres choses que l'on remplit dans notre vie, et c'est peut-être ça, justement, qu'il faudrait revaloriser, reconstituer le tissu social, non pas simplement, même si c'est évidemment très important, le travail, mais aussi la famille, les liens amicaux, les associations, que ce soit caritatives, de défense du patrimoine, etc.
C'est intéressant parce que finalement, je vais résumer ce que vous dites, Guillaume Bernard, sous votre contrôle, il y a deux problèmes qui peuvent se poser. D'abord, pour les plus jeunes, le phase de déprime, qui dans sa jeunesse, dans son adolescence, n'a pas eu envie de se jeter par un pont, ou vous faites larguer par une femme que vous aimez à 18 ans, vous croyez que c'est l'amour de votre vie. Tous les jeunes, tous les gosses pensent à se jeter par un pont. Ben, c'est ça, le gars il va dire je veux me faire euthanasier parce que ma vie elle est terminée. Voilà, c'est ça le véritable écueil, que ça devienne vraiment facile, une grosse déprime, ou même les gens qui sont anxieux par les questions climatiques, disent c'est la fin du monde, Poutine va lancer des bombes nucléaires, je veux l'euthanasie. Et l'autre écueil, c'est qu'il y a les personnes très âgées, à 80 ans, 85 ans, qui arrivent à l'hôpital, ils souffrent beaucoup, on dit bon bah écoutez, signez le petit papier et puis ce sera vite fini. Et puis en plus, ça fera quelques économies sur les caisses de retraite.
Alors là, vous avez raison. Il y a les deux points que vous mettez en exergue qui sont essentiels. Il y a la question de la souffrance que l'on ne cesse d'exacerber alors qu'il y a des moyens de juguler la souffrance. Regardez, on est opéré sous anesthésie et l'on ne souffre pas lorsque l'on est sous anesthésie. Je ne dis pas qu'il faut anesthésier de manière générale tous les malades, je dis simplement qu'il y a des moyens de juguler la souffrance. Et puis, il y a le deuxième aspect, c'est l'exploitation de l'abnégation des personnes qui se disent « je suis un poids pour ma famille et pour la société ». Et je crois qu'il ne faut pas négliger un certain cynisme qui pourrait être, je dirais, l'un des motifs de la volonté de légalisation de l'euthanasie, qui est tout simplement de, eh bien, de faire des économies au système de protection sociale. Je crois qu'il ne faut absolument pas négliger qu'il y ait une telle possibilité, une telle motivation parmi ceux qui en font la promotion.
Et voilà, concept évidemment à manier avec grande prudence, réflexion. Et là, c'est pas être politiquement correct et être en disant ça, il faut être de grande tolérance finalement vis-à-vis de tous ceux qui ont un vrai problème autour de ce sujet. Écoutez, voilà, c'est un peu ce que...
Absolument. Alors, du point de vue, je crois qu'il y a deux enjeux, hein, si on veut essayer d'embrasser la question, en essayant de la dédramatiser et en essayant d'aller au-delà justement de l'émotion. Il y a un premier enjeu qui est d'ordre philosophique. Je sais que ce que je vais dire va choquer, mais il faut quand même le prendre en considération. Puis il y a un enjeu plus juridique. Le premier enjeu philosophique, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une faculté que l'on dispose pour autant d'un droit subjectif opposable aux autres personnes. C'est-à-dire, j'ai la faculté, nous avons tous effectivement la faculté, eh bien, de nous suicider. Ça ne signifie pas pour autant que l'on a un droit à se suicider et que l'on pourrait exiger, sous prétexte que l'on n'en a pas les moyens ou que l'on n'en a pas les connaissances, exiger d'une autre personne qu'elle nous suicide à notre place. Et le deuxième point, qui est le deuxième enjeu, qui est justement d'ordre juridique et qui est directement lié au premier, c'est que ce n'est pas parce que il y a le consentement de la victime, en l'occurrence la personne qui serait euthanasiée ou qui serait suicidée de manière assistée, que pour autant ça enlèverait à l'acte d'euthanasie ou à l'acte de suicide assisté, sa qualification d'homicide. Ça reste un homicide. Celui qui injecte une substance mortifère ou celui qui fournit la substance mortifère, eh bien, il contribue directement à un homicide et le consentement de la victime n'est pas une cause exonératoire de l'acte.
Ah ben je vais faire un parallèle. Un chef d'entreprise qui organise un pot de départ, une fête, et qui est salarié, repart bourré, et il a un accident, il se tue dans un accident de voiture, c'est le chef d'entreprise qui est responsable, même s'il explique que le salarié a voulu boire 5-6 verres, on l'arrêtait pas, il était de bonne humeur, c'est lui-même qui s'est servi les verres, même pour un restaurateur, parfois, quelqu'un qui se sert les verres à votre insu, ben vous êtes responsable si ça a été votre alcool et chez vous, c'est la même chose.
Oui, c'est exactement cela. Et je crois que il faut réfléchir à deux fois de ce que nous donnerait notre société si, eh bien, on créait cette, légalisation, c'est-à-dire cette dépénalisation d'un homicide sous prétexte de compassion. Compassion qui est, encore une fois, vous l'avez dit Yannick, et je crois qu'il faut insister là-dessus, qui est parfaitement compréhensible, mais ça ne justifie pas, de passer, d'une situation où on ferme les yeux dans des cas extrêmes à une situation où on collectiviserait la responsabilité. Parce que la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, ça signifie quoi ? Ça ne signifie pas qu'une personne individuellement utilise la faculté qu'elle a de se suicider. Non, c'est le fait qu'on va collectiviser la responsabilité. Dans notre ensemble, tout le corps social va, par la loi, qui est supposée être la volonté générale, par les finances publiques, c'est-à-dire ce qui est le fruit de nos divers impôts que nous allons payer ou que nous payons, eh bien, nous allons contribuer à ces actes. Eh bien, je ne suis pas certain que moralement, on puisse nous obliger à contribuer à ces actes-là qui sont tout de même très, pardon pour le terme anglais, borderline.
Merci Guillaume Bernard pour cette analyse vraiment passionnante. Je rappelle que vous êtes historien du droit, politologue, vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Vendée. Et merci de nous avoir apporté cet éclairage vraiment différent sur cette question de la fin de vie et de l'euthanasie qui occupe l'actualité en ce moment. Merci Guillaume Bernard.
Merci.